Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Le film La Petite Sirène sort ce mercredi. Gaëlle Moury l'a vu, elle nous dira ce qu'il faut en penser et pourquoi le film fait polémique.
Les liens entre l'Occident et ses partenaires du Sud se délitent, on vous explique pourquoi dans un instant.
Mais d'abord, vous avez l'impression que votre carnet d'épargne ne vous rapporte rien. Ce n'est pas une impression, mais le monde politique voudrait changer cela.
Nous sommes le mercredi 24 mai, je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
C'est vérifié avec un rapide coup d'œil à votre compte en banque. Difficile aujourd'hui d'obtenir un rendement supérieur à 2% sur votre carnet d'épargne. Et encore, pour atteindre ces 2%, il faut remplir toute une série de conditions.
Dans le même temps, vous entendez que la Banque Centrale Européenne remonte ses taux. Vous constatez que votre crédit hypothécaire, lui, coûte plus cher. Alors comment expliquer ce différentiel? Les banques rémunèrent-elles trop peu l'épargne de leurs clients? Qu'en pense le monde politique? On fait le tour des questions et des réponses avec Amandine Claute, chef adjointe du Pôle Éco. Bonjour Amandine.
Bonjour Pierre.
Ce constat d'abord, un carnet d'épargne, ça ne rapporte pas ou en tout cas plus grand-chose?
Ça rapporte un peu plus que ces dernières années tout de même, hein, puisque comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne et la plupart des banques centrales dans le monde ont inversé leur politique monétaire. Donc après 10 ans de taux bas, elles ont décidé d'inverser la tendance et donc de rehausser leur taux directeur, principalement pour lutter contre l'inflation, donc la hausse des prix. Ce qui a pour conséquence aussi que, disons en début d'année, les principales banques du pays ont quand même revu leur politique et rémunéré un peu mieux l'épargne, sachant qu'elle n'était presque plus rémunérée du tout depuis presque 10 ans.
Et d'ailleurs, on se rend compte du niveau assez bas de ces rendements quand on compare les taux que les banques accordent aux particuliers et les taux que la Banque Centrale Européenne accorde elle-même aux banques.
Alors oui, si on doit expliquer simplement les choses, les banques centrales et la Banque Centrale Européenne, elle a quand même une politique assez agressive. Donc les taux ont sensiblement remonté en peu de temps depuis la mi-2022. Ça a un impact évidemment sur le refinancement des banques, mais aussi sur ce qu'elles peuvent toucher comme intérêt quand elles déposent nos dépôts qu'elles n'ont pas alloués à d'autres activités. Donc d'un côté, ça leur coûte plus cher de se refinancer qu'avant, mais de l'autre, tout l'excédent d'épargne, tout ce qu'elles n'ont pas investi dans d'autres choses, ça leur apporte pas mal d'argent. Actuellement, depuis le 4 mai dernier, c'est 3,25%. Et en Belgique, qu'est-ce qui se passe sur les carnets d'épargne? Il y a un petit challenger de marché, NIBC, qui propose du 2% sans conditions spécifiques. Si ce n'est que pour, c'est un intérêt composé, donc il faut laisser son argent dormir là pendant 12 mois pour bénéficier des 1,50 de prime de fidélité. Et puis on a quelques petits challengers qui proposent aussi du 2% à des conditions spécifiques. Mais si on regarde vraiment sur les gros acteurs du marché, hein, donc on parle des 4 grosses banques, BNP Paribas, Fortis, KBC, Belfius et ING, qui concentrent à elles 4 quasi toute l'épargne des Belges, hein, et c'est pas rien, c'est 262 milliards, hein, c'est énorme. Ben là, on est bien en dessous des 2%, puisque ING est au top, à des conditions particulières que je ne vais pas détailler ici, à 1,4%.
De toute façon, ça fait une différence assez importante avec ces 3,25 que la BCE accorde aux institutions bancaires. Le monde politique, il estime lui aussi que cette différence, elle est trop importante.
Alors oui, on dirait que la Vivaldi vient de se réveiller sur la question des taux, hein, puisque tout a démarré. Enfin, je pense que voilà, il y a eu des discussions avant, bien sûr. C'est une préoccupation importante pour les gens. Donc évidemment, c'est une préoccupation importante pour le politique, surtout qu'on est quand même à un an des élections. Donc ça a commencé comment? Le 17 mai dernier, on a appris que le ministre des Finances, qui est donc compétent pour tout ça, a envoyé une lettre à Fébelfin, qui est le représentant des banques, la fédération du secteur financier, pour leur dire, bon ben voilà, il y a une pression populaire de plus en plus forte, les gens ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont pas contents, ils veulent plus de transparence. J'estime également que l'épargne n'est pas assez rémunérée. Il faudrait que ça change, même s'il y a des questions de droit de la concurrence, etc. Et que la marge de manœuvre de Fébelfin est quand même ici limitée. C'est quand même la politique commerciale de banque commerciale. Mais il n'empêche, il y a quand même un bon sentiment d'injustice dans la population. Et donc, effectivement, tous les partis de la Vivaldi ont en tout cas, à minima, déclaré que l'épargne n'était pas assez rémunérée.
La secrétaire d'État au budget, Alexia Bertrand, elle propose même d'aller un petit peu plus loin.
Alors oui, pour une libérale, c'était assez surprenant. En même temps, voilà, elle a dans son portefeuille la protection des consommateurs. Et donc, si elle dit bien qu'elle est pour un marché libre et pour que la concurrence s'exerce, si les banques ne bougent pas, elle a agité la menace législative. Donc, il faut savoir en Belgique que la majorité de l'épargne est logée sur des comptes d'épargne réglementés. Que dit la loi à ce niveau ? Elle dit que le rendement minimum doit s'établir à 0,11% actuellement. Donc, ça veut dire que pendant l'ère des taux bas, où les taux étaient même négatifs, les banques étaient quand même obligées de rémunérer 0,11% l'épargnant. Alors, c'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien. Et c'est évidemment la corollaire d'une autre mesure fiscale, qui est l'exonération du précompte immobilier. Ça veut dire qu'on ne paye pas d'impôts sur les revenus de cette épargne jusqu'à un plafond de 980 euros par an. Et ce qu'a dit Alexia Bertrand, c'est s'il faut en arriver là, on va rehausser ce rendement minimum légal.
C'est possible de se dire, parce que les banques sont quand même essentiellement, à part pour le cas particulier de Belfius, des acteurs privés, c'est possible de voir le gouvernement aller leur imposer là, peu importe, vous avez beau être privé, on fait vous imposer un rendement minimum ?
C'est possible, alors les banques ne sont pas d'accord. Fébelfin a directement retorqué que ce serait une catastrophe, que ce serait dangereux pour leur rentabilité. Et c'est évidemment quelque chose dont il faut tenir compte. Les banques, elles se financent effectivement à des taux bien plus élevés qu'aujourd'hui. Elles ont accordé pendant longtemps des prêts à des taux très bas, etc. Maintenant, si leur bilan est bien géré, la plupart des économistes avisés sur le sujet nous ont bien démontré par A plus B. Je pense notamment à Eric Dor, qui est vraiment un économiste spécialisé sur le segment bancaire, qui a vraiment étudié la question et qui montre que, tout de même, les banques belges, elles ont quand même une sérieuse marge pour pouvoir mieux rémunérer l'épargne sans se mettre en danger. Et quant à la question de est-ce que les pouvoirs publics ont le droit de le faire ou pas, je pense que oui, et je pense pas que, par exemple, la secrétaire d'État au budget aurait brandi cette menace-là si ça excédait ses compétences.
Une dernière petite chose, là qu'on en parle d'aller chercher des rendements plus intéressants, ça veut aussi dire faire jouer la concurrence, et je prends un exemple, c'est celui des prix de l'énergie. Ça, j'ai l'impression que tout le monde a bien intégré que si on voulait des prix plus avantageux, il fallait faire un comparatif, aller voir un peu tous les fournisseurs et éventuellement en changer. On a l'impression que c'est un raisonnement qui ne s'applique pas aux banques. C'est parce que dans notre esprit, on ne change pas de banque alors qu'en fait, on pourrait.
Il y a une première chose qu'il faut signaler ici, c'est que si on regarde les quatre premières grandes banques en Belgique qui concentrent quasi tout le marché, il n'y a pas non plus énormément de différence dans leur offre. Ça, c'est une première chose. Et là, encore une fois, et c'est ce que le politique souligne aussi, c'est ce que des économistes soulignent, c'est que est-ce qu'il y a un manque de concurrence dans le marché belge ? Et notamment quand on voit les niveaux de rémunération d'épargne, on peut se poser la question. De là à dire que c'est une entente explicite ou pas nécessairement, mais c'est peut-être une entente classique. Et je dis bien peut-être, soyons prudents. La deuxième chose, effectivement, c'est que le Belge, il est particulièrement inerte quand il s'agit de changer de banque. Alors pourquoi ? C'est historique, je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais tout le monde le constate. Et évidemment, les banques, elles en profitent un petit peu. Même à l'intérieur d'une même banque, quand il y a des meilleures offres, etc., le Belge ne va pas spécialement être réactif. Et pourtant, il y a eu des efforts à ce niveau-là. Il y a notamment un service qui a été mis en place il y a quelques années qui s'appelle Bank Switching et qui, normalement, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que ça dans la pratique, mais permet à quelqu'un qui veut changer de banque d'avoir ce processus facilité puisque la banque qu'il quitte est obligée de transmettre toutes les données, domiciliation, ordre permanent, etc., à la banque qu'il rejoint. Et ça, c'est une obligation légale pour les institutions. Mais malgré ça, si on regarde les chiffres de Fébelfin pour 2022, il y a eu 93 000 demandes. C'est rien du tout par rapport au nombre de comptes ouverts en Belgique.
Et le Belge a tendance à être un peu frileux au moment de changer de banque aussi parce qu'il y a certaines conditions qui nous donnent l'impression qu'on n'a pas le droit d'en changer. Par exemple, si on a contracté un emprunt, un crédit hypothécaire auprès d'un organisme, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir aller mettre son compte épargne ailleurs parce qu'on est lié.
Il faut savoir que quand on signe un crédit hypothécaire en Belgique, généralement, quasi toutes les banques le font. Je pense que je peux même affirmer que toutes les banques le font. On a une réduction sur le taux accordé qui est quasi automatique si on accepte d'y domicilier ses revenus pendant toute la durée du crédit hypothécaire. Alors, si on n'a pas envie de multiplier les frais bancaires, etc., sachant qu'en Belgique, un compte courant est automatiquement accompagné d'un compte épargne classique réglementé, on ne va pas aller chercher un compte épargne ailleurs, etc. Donc, ça contraint une certaine immobilité, ça force à une certaine immobilité. possibilité pour ce qui est du compte courant et de la domiciliation des revenus. Et on a appris hier, et l'information a été vraiment épinglée parce qu'elle est très intéressante, qu'un projet de loi déposé par le cabinet d'Hermann, donc le ministre de l'économie, PS, visait à justement obliger les banques à arrêter de faire ça. Ça veut dire, en gros, on peut espérer que cette réduction perdure, mais vous ne perdrez pas cet avantage si vous quittez votre banque avant l'échéance de votre crédit hypothécaire. Donc ce projet de loi, il n'est encore qu'un projet de loi, mais s'il passe, c'est assez intéressant et ça pourrait justement encourager cette mobilité interbancaire assez nulle actuellement en Belgique.
Merci beaucoup Amandine.
Merci Pierre.
Les pays du Sud refusent d'appliquer des sanctions contre la Russie, ils se rapprochent de la Chine et s'émancipent toujours plus de l'Occident.
Et pour renouer les liens, les très occidentaux membres du G7 avaient invité plusieurs responsables de ces pays le week-end dernier à leur sommet à Hiroshima. Il y avait par exemple l'Indien Modi ou le président brésilien Lula, des leaders représentatifs de ce Sud global qui revendiquent sa place aujourd'hui. Si l'Occident sert ses propres intérêts géopolitiques, ils feront de même. La rupture est-elle irrémédiable ? On décrypte avec Véronique Kiesel, journaliste au Pôle international. Bonjour Véronique.
Bonjour Sandrine.
Dans votre article, vous parlez de Sud global. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme ?
Alors le Sud global est en quelque sorte l'héritier de ce qu'on a appelé jadis le tiers-monde. C'était les pays qui n'appartenaient pas au premier monde, c'était le monde occidental, capitaliste, ni au deuxième monde, qui étaient les puissances communistes, la Russie et la Chine.
Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un héritage des pays non alignés qui se définissaient comme alignés ni pour une puissance ni contre une grande puissance?
Oui, c'est exactement ça en fait. Ces pays qui sont passés du tiers-monde au statut de pays en voie de développement se sont regroupés déjà à l'époque de la conférence de Bandung en 1955 qui avait été organisée en Indonésie, qui était un des premiers pays qui avait réussi à sa décolonisation, à se séparer des Pays-Bas. Et ils regroupaient des leaders de ces pays du Sud qui certains étaient encore colonisés et c'était la première fois qu'ils se réunissaient sans les puissances coloniales. Pour l'Occident, ça a été déjà un choc à cette époque-là, parce qu'ils se rendaient compte que ces pays qui dépendaient d'eux pouvaient prendre leur autonomie. Maintenant, on se rend compte que ces pays non alignés sont devenus plutôt des multi-alignés, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas choisir entre un camp ou l'autre, entre les États-Unis et l'Union européenne, ou la Russie ou la Chine. Comme le président du Brésil, Lula, qui est allé voir Joe Biden à la Maison-Blanche, qui est après a été reçu en grande pompe à Pékin, et ils choisissent des alliances, des accords, des investissements pour privilégier leur développement et les intérêts de leur propre pays.
La guerre en Ukraine a été un véritable révélateur de cette émancipation des pays du Sud. L'Occident n'a pas pu convaincre ses alliés du Sud de voter en fait pour les sanctions contre la Russie. L'Occident a perdu ses alliés.
Perdu, c'est un mot un petit peu trop fort, mais enfin en tout cas, ils se sont distanciés d'eux. On avait l'habitude d'aller voir les pays partenaires du Sud, on faisait des accords de coopération et puis bah, en échange, ils votaient dans les instances internationales, ils votaient pour les projets ou parfois les candidats de ces pays du Nord. Ce lien c'est quand même fort fort effiloché. L'Occident s'est retrouvé très choqué de voir que ces pays partenaires qu'on continue à aider ne votaient pas comme un seul homme les sanctions contre la Russie.
C'est un manque de solidarité de leur part?
Ça peut être vu comme un manque de solidarité et en même temps ils ont leurs raisons. Ils se sont rendus compte par exemple que les sanctions pouvaient faire beaucoup de dégâts d'abord aux populations. Ça fait 60 ans que les États-Unis imposent des sanctions à Cuba qui font vraiment beaucoup de tort à la population et qui n'ont pas du tout abouti au moindre changement de régime. En plus, comme ils font aussi du commerce avec la Russie. Ils n'ont pas envie de se fâcher avec la Russie. Tout ça est assez complexe. Ils ont pris effectivement une certaine autonomie.
C'est plutôt une forme d'opportunisme en fait.
D'opportunisme ou de réalisme, si on veut le voir d'un angle occidental en disant ils ne suivent plus les grands principes, c'est mal. D'autres disent ils ont le droit de faire leur choix aussi. En même temps, à l'ONU, ils ont quand même voté pour la défense de la souveraineté des États indépendants et des frontières. Ce principe-là, ils continuent à le reconnaître. C'est plutôt dans une condamnation très concrète de Moscou qu'ils ne veulent pas aller.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que cette division, cette émancipation du Sud se marque autant?
Donc j'ai fait une interview de Léni Ismaël, qui est une professeure d'université, chercheuse, qui était diplomate, etc., qui a une excellente vision elle-même venant d'un pays du Sud.
D'ailleurs, pour revenir un peu sur les coulisses de cette interview, une experte venant du Sud, c'était important pour votre sujet?
Oui, parce qu'on se disait qu'il fallait parler du Sud global, qui est un concept donc qui monte de plus en plus, dont on entend parler, pour comprendre un petit peu ce à quoi il fait référence. J'avais un peu cherché, je pouvais trouver plusieurs experts français, certainement très brillants, mais ça aurait été de nouveau un point point de vue du Nord. Et donc on s'était dit que pour comprendre, en enlevant un peu nos ornières du Nord, puisqu'on les a quand même malgré tout, ce serait bien d'avoir quelqu'un du Sud. Et on a trouvé cette donc Lène Ismaël, ancienne ambassadrice, qui a un profil tout à fait intéressant.
Et dans son analyse, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ce divorce entre les pays du Sud et l'Occident se produise?
La crise du Covid, suivie de l'Ukraine, a vraiment mis en grande difficulté une bonne partie de ces pays du Sud. La crise du Covid, on s'en souvient, les frontières étaient fermées, plus rien ne circulait, les gens ont perdu les emplois, les enfants n'allaient plus à l'école, l'économie a été paralysée et ça a vraiment coûté extrêmement cher à tous ces pays. Et puis quand on émergeait de cette crise du Covid, la guerre en Ukraine est arrivée avec de nouveau des chaînes d'approvisionnement coupées, avec les sanctions, avec une focalisation de l'Occident sur cette crise-là au mépris d'autres crises très graves. Ces deux crises, l'une après l'autre, auxquelles s'ajoute aussi la crise climatique, font que ces pays, il y en a une cinquantaine qui sont vraiment en grande détresse financière, certains n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Les indicateurs sociaux qui étaient à la hausse sont vraiment maintenant repartis à la baisse. Donc il y a vraiment comme une décennie de développement, de croissance économique qui a été annihilée par ces deux crises. L'Occident disait toujours « on est solidaires, nous sommes avec vous ». Au moment du Covid aussi, quand il a eu les premiers vaccins performants sont arrivés, l'Occident a acheté, raflé tous les stocks bien chers. Le Sud se retrouvait sans rien et finalement, quand le gros de la crise était passé pour nous, on leur a généreusement donné notre rebut, nos vaccins presque périmés, alors que parallèlement, la Chine, et la Russie et l'Inde ont, eux, activé cette diplomatie du vaccin, c'est-à-dire en disant, ben voilà, nous on est à vos côtés, on est du Sud, on est vraiment ensemble. Et ça a vraiment eu un impact important, donc une solidarité du Nord, oui mais non.
Donc il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, il y a aussi eu toute une série d'interventions militaires récemment en Irak ou en Libye par exemple, en Syrie aussi, pour renverser les leaders en place.
Oui, c'est ça. Les pays du Sud analysent et ils disent, on voit que l'Occident est vraiment fermement décidé à traduire Vladimir Poutine à la cour de La Haye pour les crimes de guerre commis en Ukraine. Et ces pays-là digèrent assez mal le fait qu'il y a eu des grosses interventions internationales occidentales, États-Unis avec alliés européens, effectivement, en Irak pour renverser Saddam Hussein, en Libye pour renverser Kadhafi, qui ont été menés avec des moyens très importants et causant, certes, les leaders ont été renversés, mais c'est pas pour ça qu'un régime démocratique s'est installé. Les pays, après, en sont sortis complètement déstructurés, en ruine, avec des crimes de guerre qui ont été commis également. Là, le double standard est vraiment quelque chose que les dirigeants des pays du Sud et la population non plus, d'ailleurs, ne supportent plus. C'est que Poutine, on va le traduire à La Haye, mais les dirigeants des pays occidentaux qui ont semé le chaos et la destruction dans ces pays là, il n'en est pas question.
Un autre exemple de l'attitude de l'Occident, c'est le Venezuela. Le pays a été lourdement sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis qui ont complètement retourné leur veste. En fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est ce que me rappelait Madame Ismaël, c'est qu'effectivement, le chef de l'opposition, Juan Guaido, s'était autoproclamé président. Il a eu le soutien de Washington, de la plupart des pays de l'Union européenne. Et en même temps, les États-Unis ont gelé toute une série d'avoirs vénézuéliens. Le gouvernement vénézuélien, certes, n'est pas très à la hauteur et n'est pas très performant, mais il s'est retrouvé privé de ses réserves financières. Le pays était vraiment complètement à genoux, avec un système social complètement détruit.
Et des conséquences terribles pour la population.
Oui, il y a des dizaines de millions de gens qui sont partis, qui ont dû fuir. Et le Covid a été désastreux. Il y a eu un nombre de morts très, très important. Depuis la guerre en Ukraine, comme il fallait récupérer du pétrole et que le Venezuela dispose des réserves de pétrole les plus importantes au monde, les États-Unis ont changé leur politique. Et Guaido, qui était le président, n'est plus le président. On reparle avec le vrai président Maduro et on va forer le pétrole vénézuélien. Et voilà, donc cette manière qu'a l'Occident parfois d'imposer des règles et puis de les changer quand ça lui chante, d'ouvrir ou de fermer le robinet, c'est quelque chose qui passe aussi très mal dans ces pays du Sud.
Quelle est l'attitude que devrait adopter l'Occident aujourd'hui?
Lène Ismaël, elle prône un peu plus d'humilité, un peu plus de respect des partenaires du Sud. Elle prône aussi le fait vraiment de lancer une nouvelle relation avec ces pays et d'éviter aussi le « c'est nous ou c'est eux ». La Chine fait des gros efforts pour se connecter à tous ces pays du Sud. Et on est dans une période avec quand même des tensions extrêmement importantes entre l'Occident et la Chine. Ces pays en développement, il ne faut pas leur imposer de choisir. Ils ont besoin de partenaires fiables. Et il n'est pas question de jouer au père de famille qui dit ça oui, ça non, c'est moi qui décide, tu n'as pas à faire ça. Voilà, il faut vraiment des relations gagnant-gagnant où chacun trouve un réel intérêt pour son développement et le maintien de ses valeurs.
Merci Véronique.
Merci Sandrine.
Bouche à oreille.
Sous l'océan. Sous l'océan.
La petite sirène se refait une beauté 34 ans après la sortie du dessin animé. C'est l'un des remakes Disney en prise de vue réelle les plus attendus.
Et pour interpréter Ariel, la petite sirène, le réalisateur Rob Marshall s'est tourné vers Halle Bailey. Une décision qui a suscité dès la sortie de la bande-annonce une vague de racisme et de haine sur les réseaux sociaux avec des hashtags tels que « Pas mon Ariel ». Gaëlle Moury, journaliste au Pôle Culture, a vu La Petite Sirène. Elle nous explique la polémique et pourquoi ce film génère autant d'attentes.
Alors, ce nouveau film sur La Petite Sirène, c'est très attendu parce que le dessin animé qui est sorti en 1989 a eu un grand succès. Moi, personnellement, c'est un film qui a marqué mon enfance. Donc forcément, répondant à son envie de réactualiser ses films, les studios Disney se sont dit qu'ils allaient en faire un film en prise de vue réelle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas forcément une grande surprise, ça reste un classique, mais l'intelligence de Rob Marshall, c'est d'avoir ancré son film dans la réalité contemporaine. Donc La Petite Sirène, c'est un dessin animé qui à la base est inspiré du conte d'Andersen du même nom, et Rob Marshall a décidé avec son scénariste de retourner à l'origine du conte d'Andersen, et donc il a fait le choix par exemple d'illustrer Les Filles des Sept Mers par cette jeune femme d'origine différente, donc de ce fait une vraie diversité ethnique aussi. Il n'y a pas cette jeune femme blanche dans les sept rôles différents, c'est vraiment le reflet de la société en fait et du monde. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, il y a eu des levées de boucliers autour de ce film, autour du choix de Halle Bailey en Ariel, parce que Halle Bailey est une actrice noire, mais en fait ça rend le film actuel, contemporain, il est le reflet d'une réalité et en ce sens il est vraiment réussi. Après, ne vous attendez pas à être complètement surpris, ça reste un film assez classique mais avec des bons moments musicaux, des thématiques contemporaines, finalement un bon film. Ça suit plus ou moins tout le film presque, j'ai pas été perdue une seule seconde, finalement c'est la même histoire, la même trame, il y a des nouveautés, le prince Eric a plus de place que dans le dessin animé, il est un peu plus complexe, il a même droit à une nouvelle chanson. Mais globalement, le film suit la même trame. Il n'y a pas de grande surprise au niveau de l'histoire, je dirais. On retrouve à peu près les personnages classiques. Il y en a certains qui ont un peu évolué, forcément. Faut noter que le père d'Ariel, c'est Javier Bardem, quand même, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il y a l'excellente Melissa McCarthy qui joue la méchante Ursula. De manière assez royale, Melissa McCarthy, c'était la Sookie dans Gilmore Girls. C'était un des personnages de Ghostbusters. Elle a un talent certain pour se glisser dans des personnages multiples. Et donc c'est une assez excellente Ursula, elle fait peur aux petits enfants. Il y a vraiment des petits ajouts, les personnages classiques on les retrouve, mais ils ont comme évolué naturellement avec le monde qui les entoure. Donc voilà, pas de surprise en tant que telle au niveau des personnages, on est dans un schéma assez classique, mais un casting plutôt réussi en fait. Donc la polémique elle est arrivée avant même qu'on sache à quoi ressemble le film, ça date d'il y a plus de 2 ans quand on a commencé à voir les premières images, les premiers trailers. Alors là il y a eu toute une vague de haine, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, qui dénonçait le fait qu'on ait choisi une personne noire, une actrice noire, pour représenter Ariel, alors que ces personnes soutenaient que Ariel, elle a la peau blanche, elle a les cheveux rouges, et puis point. Après, ce qui est compliqué avec cette vague de haine, c'est qu'elle a un peu étouffé les avis positifs, parce qu'on a aussi vu des vidéos de petites filles émerveillées de voir quelqu'un qui leur ressemblait, tout simplement. Et quand on sait que c'était pas spécialement une intention du réalisateur de choisir Halle Bailey, il a juste choisi l'actrice qui semblait le convaincre le plus pour ce rôle, en fait on se dit que c'est une polémique un peu stérile. En tout cas, quand on lui pose la question de savoir ce que ça lui fait, en fait, toutes les réactions qui ont été négatives de certaines personnes autour du film, lui, il se montre étonné, il rappelle qu'on est en 2023 et qu'aujourd'hui on ne devrait pas s'offusquer de voir des images différentes à l'écran, au contraire c'est plutôt normal. Par contre, il ne revendique pas d'avoir comme agenda. Il dit qu'il n'a pas du tout casté Halle Bailey parce qu'elle était noire, pas du tout. Et en fait, il a vu des tas de jeunes femmes, et il l'a juste choisie parce que c'était la meilleure. Et effectivement, c'est une chanteuse accomplie. Elle forme un duo avec sa sœur qui est assez connue, qui a été nommée 5 fois aux Grammy Awards. Et elle fait le job, comme on dit en mauvais français. Vraiment, c'est une bonne actrice, elle est lumineuse, elle pourra faire rêver les petites filles, parce que finalement, c'est un film qui pourra s'adresser aux grands enfants, mais aussi aux petites filles. Mais comme souvent, quand on essaye de changer des choses, ben, on a une vague de haine à laquelle on doit faire face. Aller voir La Petite Sirène, c'est passer un bon moment, c'est finalement sourire, c'est être émerveillé par des décors assez grandiose. C'est, oui, un moment de détente. C'est pas un film spécialement ultra profond, mais c'est un bon moment. Donc, La Petite Sirène, réalisé par Rob Marshall, avec Ellie Bailey notamment, il sort le 24 mai dans les salles.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger.
À demain.